Donc ce soir, je vais dire quelques mots d'introduction pour présenter la méditation. On pourrait dire dès le début, donc donner les bases pour que lentement on puisse s'engager dans cette semaine de pratique. Il me semble qu'une des manières de pas faire de prosélytisme pour une religion, puisque cette tradition est quand même bien liée au bouddhisme, mais pour rester ouvert, ce n'est pas d'éviter nécessairement de parler de toute religion, mais au contraire, de prendre des exemples et des citations dans les diverses traditions, afin que ce ne soit pas uniquement basé sur une tradition, et que personne se sente exclu dans le fond, ou se sente dans une sorte d'univers un peu exotique ou étranger. Donc pour moi, en général, j'essaie de prendre des citations, des exemples dans les diverses traditions, de sorte qu'on se rend compte que c'est aussi quelque chose d'une préoccupation commune qui peut nous rencontrer dans la pratique que nous faisons. J'aimerais commencer par une citation de Martin Buber dans un tout petit livre qui s'appelle « Le chemin de l'homme », un très joli petit livre d'ailleurs. Et il commence ce texte en citant quelques mots de la Genèse où Dieu demande à Adam, il dit « Où es-tu ?» Et Buber de commenter, il dit évidemment, c'est pas que Dieu ne saurait pas où Adam se trouve, mais que la question qui est posée à chaque personne et tout le temps, c'est « Où es-tu ? Où te trouves-tu » Et que ceci, à chaque génération, à chaque époque, c'est la même question qui est posée. Et on peut dire que c'est aussi la question qu'on se pose en méditation. Où es-tu? Où est-ce que je suis, dans le fond? Question très importante. On pourrait y répondre rapidement. Ben, je sais, je suis là. Mais évidemment, lorsqu'on a un peu pratiqué la méditation, la pleine conscience, on se rend compte que c'est pas si simple. Encore faut-il savoir qu'on est là, être pleinement conscient d'être là. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'être pleinement conscient d'être là? En général, on sait qu'on n'est pas ailleurs. Si une personne vient et dit « T'as remarqué que tu es là ?»« Non, je ne savais pas. » On dit « Bon, cette personne a quand même quelques difficultés. » Donc, il ne s'agit pas simplement de pouvoir dire « Je suis là. » Donc, nous avons cette capacité extraordinaire. On sait bien qu'on ne peut pas... s'en aller comme ça de soi-même, tout d'un coup, prendre des vacances de soi-même. Réellement, on est toujours là où on est. Mais nous avons néanmoins ce pouvoir extraordinaire de nous absenter de nous-mêmes. C'est quelque chose de fantastique si on y pense, qu'on a cette capacité, on est là, cette capacité d'être conscient, pleinement présent, mais on a aussi une capacité de s'absenter de soi-même. Telle sorte qu'on peut se poser la question, dans le fond, où est-ce que je suis en ce moment? J'ai l'impression, quelquefois, quand on est trop centré, fasciné par la question de la conscience, ou de la pleine conscience, ou de la présence, on oublie de questionner cette capacité qu'on a. Comment est-ce qu'on fait pour s'absenter? Et qu'est-ce qu'on fait pour s'absenter? Sans parler évidemment de s'endormir profondément, on pourrait dire que c'est une manière de s'absenter, mais évidemment on connaît très bien ça, c'est pas quelque chose de particulier. Pour imaginer aussi qu'un coma serait aussi une absence profonde, mais sans ces expériences extrêmes, comment est-ce qu'on peut faire pour s'absenter de soi-même? Quel tour de magie est-ce qu'on fait? Parce que d'une certaine manière, on ne peut pas apprendre à être présent. Ça ne veut rien dire, apprendre à être présent. Il n'y a rien à faire pour être présent. Par contre, ce qu'on peut explorer, étudier, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être présent? Parce que dans le fond, c'est si l'absence demande une activité, demande un faire, même une intention, quelquefois inconsciente, la présence, elle ne demande aucune intention particulière. Elle est là manifeste quand justement nous cessons de nous enfuir, nous cessons de nous cacher. À ce moment-là, alors, il ne reste rien d'autre que la présence. Donc il me semble que c'est une question très intéressante dans la pratique, lorsqu'on veut explorer ce qu'est la présence ou la pleine conscience, de se dire, mais dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être conscient, pour ne pas être présent? On a quelquefois dans les techniques qu'on explore, qu'on développe, une sorte de croyance qui finit par se développer dans les pratiquants, comme si il y avait un lieu particulier de la présence en nous. Pour être présent, il faut revenir à ceci. Pour être présent, il faut revenir à la respiration. Il faudrait revenir à la sensation corporelle dans l'abdomen. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très bizarre. Si tout d'un coup, hein, pour être présent, on revient à la respiration ou aux sensations corporelles dans l'abdomen. Comme si on ne pouvait pas être présent dans toute expérience. Et ceci, on le remarque dans les milieux de gens qui font la méditation, même très intensément, comment tout d'un coup, lorsqu'il s'agit d'être présent, on prend une position particulière, il y a une sorte de manière d'être présent, comme pour être sur la photo, quoi. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec ça. Il ne s'agit pas si tout d'un coup, dans la pratique ou dans la vie quotidienne, on découvre qu'on est distrait, qu'on est absent, il ne s'agit pas tout d'un coup de revenir dans un lieu particulier, c'est-à-dire des expériences particulières, en se disant « là, je suis présent ». Ceci voudrait dire que notre existence se limite à quelque chose d'extrêmement restreint. La respiration, quelques sensations dans un certain endroit, voilà où se passe notre présence. J'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu plus riche que ça. Donc il n'y a pas de lieu de la présence particulier. Il n'y a pas d'expérience particulière de la présence, ici ou là, dans une expérience particulière ou dans une autre. La présence est toujours le fait d'être dans un rapport particulier à toute expérience, quelle qu'elle soit. Je pourrais être dans une sorte de rêverie. Et voilà, de l'extérieur, on pourrait dire, tiens, il est perdu, il rêve, il est absent. Et je pourrais être totalement là, dans cette expérience de rêverie. Pas de raison que dans cette expérience de rêverie-là, je pourrais ne pas être présent et que quand je vais être avec la respiration ou avec les sensations dans une zone du corps, tout d'un coup, je serai présent. Il n'y a pas de modèle d'une expérience qui est la présence et une autre expérience qui ne serait pas présence. La présence ou la pleine conscience n'est pas une expérience. Ce n'est pas une expérience. C'est le rapport à une expérience. Si on en fait une expérience particulière, alors on s'engage dans une sorte de combat qui fait qu'on va vouloir éliminer tout ce qui semble ne pas correspondre à ce modèle de ce que devrait être la pleine conscience ou la présence. Pleine conscience, présence, ça doit être calme, tranquille, assez dépouillé. Enfin, il y a quand même pas mal de modèles qu'on pourrait cultiver. Voilà, ça c'est vraiment la présence, la pleine conscience. Donc dès que surgit quelque chose qui semble en désaccord avec ceci, il y a de l'agitation. Bon, faudrait que je règle un peu le compte à l'agitation pour être présent. Ou un peu de torpeur. Il faut que je règle le compte maintenant à la torpeur pour être présent. Quelques pensées qui surgissent ou inquiétudes. Maintenant, il faut que je règle le compte à cette inquiétude, à ces pensées pour pouvoir être présent. Vous voyez, on fait de la présence une sorte d'expérience particulière. Ce qui fait que finalement, on la rencontrerait assez rarement dans la vie quotidienne, puisqu'il se passe beaucoup de choses. Donc là, la pleine conscience, la présence, n'est pas une expérience particulière, c'est une manière d'être dans n'importe quelle expérience. quelle qu'elle soit, dans l'agitation, dans la somnolence, dans la fatigue, dans le calme, dans la tranquillité, dans la béatitude, dans toute expérience. Si on demandait à des participants qu'est-ce qui se passe dans votre méditation, et qu'une personne dit « Oh là, moi j'ai de l'agitation, moi j'ai un peu de somnolence, moi j'ai de l'inquiétude, moi j'ai du calme, moi j'ai de la joie, moi j'ai de la béatitude », ça ne nous dirait rien sur la méditation, rien du tout. Ça nous dirait sur leurs expériences. Tiens, cette personne, elle a du calme, elle a de la joie, ça doit être assez sympa, l'autre, elle a un petit peu de fatigue ou d'agitation. Voilà, voilà ce qui se passe dans la méditation, mais ça ne dit rien sur la qualité. Une personne pourrait être totalement présente dans l'agitation, dans l'inquiétude, dans la torpeur, et une autre complètement absorbée, une sorte de complaisance dans un certain calme, une certaine joie, une certaine tranquillité. Et ça, je crois que c'est un des éléments très importants. Il faut éviter cette confusion, sinon constamment, on va s'affairer dans notre méditation pour essayer d'éliminer ce qui est là, pour favoriser ce qui n'est pas là. Et essayer d'être présent en ne voulant pas ce qui est là, en voulant autre chose, ça c'est difficile. Autant vouloir soulever une planche sur laquelle on se tient debout, c'est pas vraiment une tâche facile. Donc de vouloir être présent, mais en éliminant ce qui se passe dans l'instant et en voulant favoriser quelque chose d'autre, c'est une manière certaine de se fatiguer dans la méditation et d'en éprouver une certaine frustration. Et dès qu'on a un objectif particulier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un objectif particulier, aussi simple soit-il, de tranquilliser l'esprit, de se calmer? Dès qu'on a un objectif, ça veut dire quoi? On a quelque chose, on a une image en tête, on a un imaginaire, et on essaie d'être présent à travers un imaginaire qui est dans le futur, qui est une anticipation, parce que c'est ce que je veux atteindre. Et comment est-ce qu'on peut être présent quand on s'attache à l'imaginaire et qu'on ne se rend pas compte qu'on s'attache à l'imaginaire? Donc dès qu'on entre avec un programme dans notre méditation, je veux faire ceci ou cela, alors on peut développer quelque chose. On pourrait développer une capacité d'être avec la respiration pendant un certain temps, qui ne sont pas des choses inutiles d'ailleurs. Mais c'est d'un autre ordre. Dans la pleine conscience, dans la mindfulness ou dans la présence, ce n'est pas ce dont on parle. On parle d'une certaine manière d'être dans chaque expérience. Donc nous sommes toujours là, quoi qu'on en dise. Donc il ne s'agit pas, lorsqu'on se surprend à être distrait, à essayer de trouver l'endroit où je me trouve. Si je me surprends à être distrait, où est-ce que je suis? Je suis dans la distraction. Si lorsque je me surprends à être distrait, je veux me retrouver dans le calme ou dans la clarté, alors c'est évidemment problématique. Nous sommes toujours déjà là. Si nous regardons ailleurs, plus loin, alors nous ne réalisons pas que nous sommes déjà là. Et on peut passer de longues heures de pratique à se chercher dans l'anticipation. Donc à chaque instant, tout est toujours déjà là pour nous dans notre méditation. On ne peut pas dire, il manque quelque chose. Je vais passer 2-3 jours, peut-être que je vais développer ceci, et finalement, non. Il s'agit de réaliser où nous sommes à chaque instant. C'est quelque chose de très différent de la manière dont nous nous engageons dans l'activité, dans la vie quotidienne, une activité utilitaire, où il s'agit d'accomplir quelque chose qui n'est pas là présentement, C'est le but de l'exercice. On va faire quelque chose. Le cuisinier est venu, il a rassemblé quelques aliments, il en a fait un repas. Tant mieux pour nous. Il n'a pas juste été dans une sorte de présence contemplative en disant, ben voilà, ça suffit, tout est déjà là. Il avait un projet qu'il a accompli. Mais dans la pleine conscience, dans la pratique de la présence, il ne s'agit pas de faire surgir quelque chose qui ne serait pas déjà là. Si on devait faire surgir une présence qui n'est pas déjà là, où est-ce qu'on irait la chercher? Ça voudrait dire qu'elle se trouve hors de nous. À Charmey, on a découvert qu'à Charmey, il y avait un lieu où il y a plein de présence. Alors on a couru ici pour se dire, voilà, on va pouvoir être ici, on va faire le plein de présence. Il est toujours déjà là en nous, c'est la conscience. Donc nous sommes dans une attitude assez étonnante où il n'y a rien à accomplir, tout est toujours déjà là. Alors on s'assied en méditation et on se demande qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est en général comme ça qu'on s'engage dans l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais faire pour quoi? Faire pour être simplement, mais nous sommes déjà. Donc il n'y a pas de question qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là notre difficulté. Parce que nous sommes tellement habiles pour faire, mais qu'on nous donne des choses à faire compliquées, nous savons les faire les choses les plus compliquées, ça c'est simple pour nous. Mais quand tout d'un coup on nous enlève cette maîtrise qu'on a sur le savoir-faire, on dit il n'y a pas de savoir-faire dans la présence. Il n'y a pas de savoir-faire possible. Alors on est pris au dépourvu. On rencontre ceci dans la méditation. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que je fais en ce moment, dans cette situation? On essaye d'amener des sortes de stratégies qui pourraient nous aider. Parce que c'est en général ce qu'on fait dans la vie quotidienne pour accomplir des choses importantes. Mais ces stratégies ne marchent pas. Elles nous éloignent. Elles sont dans l'anticipation de quelque chose qui n'est pas là. Donc il y a essentiellement dans notre pratique quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de détente, de repos sur l'instant lui-même. L'instant lui-même, ça veut dire sur l'expérience telle qu'elle surgit. Cette manière d'être là, de se disposer, de s'ouvrir à ce qu'il a en cet instant, on n'a pas le choix. Ce qui est là est déjà là. C'est trop tard pour choisir, c'est déjà là. Le fait de vouloir choisir, c'est quand on peut agir sur pour faire un repas à la cuisine. Donc cette manière que nous avons de nous disposer, accueillir ce qui est déjà là, dans une attitude qui n'est pas une attitude de faire, d'agir, de vouloir autre chose, mais de découvrir la profondeur de ce qui est déjà là. Tant qu'on veut toujours transformer, alors on va pouvoir atteindre une certaine transformation, et ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'on a visé ou planifié, si on se débrouille bien, mais on ne va rien découvrir d'autre, on ne va rien approfondir. Je pourrais venir dans mon assise et essayer de calmer un peu les choses, de tranquilliser un peu les choses, d'être un peu moins fatigué et somnolent, et peut-être que j'y arriverai. Qu'est-ce que j'ai découvert? Un peu de calme, un peu de tranquillité, à nouveau qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je n'ai pas approfondi ce que je suis à chaque instant. Donc c'est cette curiosité que nous avons pour savoir qu'est-ce qu'il y a là en cet instant, sans se contenter d'un constat trop rapide. Voilà, il y a de la somnolence, du calme, de la tranquillité, de la joie. On a reconnu, on a nommé quelque chose, mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de l'éprouver en pleine conscience. sans se laisser enfermer par les mots. C'est ça qui nous intéresse, l'approfondissement de ce qui est déjà là. Non pas la maîtrise qui nous permettrait de manipuler les états de conscience, même si ceci peut présenter certains intérêts. Voilà pourquoi il y a quelque chose de déroutant dans la méditation. Maintenant, il est vrai que si dans notre assise, on se donnait comme consigne simplement, voilà, vous vous asseyez, vous pouvez fermer les yeux et puis simplement, voilà, soyez avec ce qui est là, il n'y a rien à changer, rien à transformer, approfondissez, ouvrez-vous, hein, rendez-vous disponible à ce qui est déjà là. Il est vrai que ça ne serait pas simple. Pour la plupart d'entre nous. Ce serait vraiment difficile parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Je comprends bien qu'il s'agit de s'ouvrir, mais qu'est-ce qui se passe dans le fond? Il y a trop de choses, il y a un peu de fatigue et puis j'ai aussi peut-être un peu mal dans cette zone du dos, un peu de lassitude et puis un peu de préoccupation. Il se passe trop de choses. Qu'est-ce que ça veut dire être là, ouvert, disponible? Je ne sais pas quoi, il y a trop de choses dans cet instant. On comprend bien ceci. Donc on peut se donner certaines tâches, si vous voulez, mais on est obligé de choisir quelque chose qui est déjà là, pas quelque chose à faire surgir. On peut prendre une zone d'ancrage, quelque chose qui est disponible à chaque instant. Sans néanmoins oublier cette attitude de réceptivité et de ne pas vouloir autre chose que ce qui est déjà là. Donc comme il y a bien ce risque d'être submergé, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, à quoi il faut être présent dans ce foisonnement d'expériences. Alors on peut choisir quelque chose qui est là. Ce qui est constamment là pour nous, c'est la présence du corps. Il est là, il disparaît pas. On peut en faire l'expérience, il a sa propre présence. Donc on peut très bien... comme point de rencontre, se dire, choisissons la présence du corps, ça veut dire les sensations corporelles, pas les images du corps ou les images des zones du corps, mais vraiment se disposer à vivre le corps dans sa qualité de présence, c'est-à-dire dans ce qu'il y a de tangible. Donc le corps n'est pas ce qu'il y a des couleurs, des formes, c'est dans l'expérience que nous avons. Le corps d'une autre personne a des formes, des couleurs, quelque chose qu'on peut voir, mais dans l'expérience que nous avons assez peu d'expérience visuelle directe de notre corps, nous avons cette expérience extraordinaire qui est cette présence concrète. Nous ne sommes pas des fictions, nous ne sommes pas là dans la 315e page d'un livre où il est dit qu'il y a une quarantaine de personnes assises en silence avec une autre qui raconte des histoires. Nous existons concrètement, et ça, on le vit. On le vit corporellement, dans cette dimension qui est de ce qu'il y a dans notre présence, dans notre existence, ce qui a un certain poids. On le sent, on en fait l'expérience. Ce poids même nous situe parfaitement, là, dans cette expérience-là du tangible. Donc en choisissant ceci comme zone d'ancrage, parce que c'est assez clair, si j'avais tendance à la rêverie ou à la somnolence, si je voulais prendre ceci comme point d'ancrage, ça serait évidemment assez malhabile, parce que ça pourrait disparaître. Et au moment où j'ai plus de somnolence, alors j'aurais perdu ce point de rencontre, cette zone d'ancrage. Donc en prenant le corps qui est toujours là. Choisissant une zone particulière. L'abdomen, la poitrine sont des zones intéressantes parce que sous l'impact de la respiration, on sent qu'il y a une vie, il y a quelque chose de vivant. On peut prendre d'autres zones, mais qui risquent d'occasionner de la lassitude plus rapidement parce qu'il se passe moins de choses. Dans l'abdomen, dans la poitrine, il y a dû au mouvement de la respiration, je sens toute cette vie, cette ces vibrations, cette chaleur. Maintenant, quand je dis ceci, je sens, etc., pour en faire un modèle, c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a des personnes pour qui le contact avec le corps est très difficile. On parle comme si c'était évident, il suffisait juste de sentir un peu dans la poitrine, dans l'abdomen, il y a toute cette vie qui se révèle, etc., etc. On fait de la poésie, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile que ça. Donc on peut aussi choisir comme zone d'ancrage l'audition. Évidemment, l'audition, ce n'est pas un son constant, mais il y a toujours une ambiance sonore, il y a toujours quelques sons, des crépitements, il y a toujours quelque chose. Donc en restant dans cette expérience auditive, qui révèle non pas les sons, non pas les crépitements, parce que ça a peu d'intérêt, mais qui révèle qu'il y a là, il y a là une conscience qui peut entendre exactement où je suis assis. Donc on peut aussi choisir l'audition, ou par moment explorer ceci. Zone d'expérience intéressante. Et elle est aussi assez franche. L'audition est ce qu'elle est, la sensation corporelle est ce qu'elle est. Avec l'imaginaire et les pensées, et on verra ceci pendant la semaine, c'est un petit peu plus compliqué, même si c'est aussi riche. Donc si jamais il y a de la difficulté à sentir les sensations corporelles, même s'il faut quand même explorer ceci, s'y disposer un peu, on peut toujours choisir l'audition, ou parfois il y a l'ambiance sonore change, et puis elle est très présente. On pourrait imaginer que demain, je ne sais pas, on fauche l'herbe ici autour des bâtiments, donc on l'entendrait bien. Donc au lieu de dire, tiens, ils ne vont pas bientôt arrêter, ça fait quand même une heure qu'ils sont en train de faucher le gazon et autres, on pourrait aussi à ce moment-là prendre cette expérience auditive comme quelque chose qui révèle cette présence. Donc ceci est aussi dans la pratique intéressant, parce que ce sont des expériences assez simples et claires. Mais sans en faire des enjeux en eux-mêmes. S'il y a ce point d'ancrage dans la sensation corporelle, dans l'abdomen, dans la poitrine, comme point de rencontre avec soi-même, si quelque chose d'autre surgit, si je me surprends dans une sorte de somnolence, de rêverie, d'inquiétude par rapport à cette semaine, ou à d'autres choses, alors il ne faut pas croire que cette rêverie, somnolence ou inquiétude, ces pensées qui alimentent l'inquiétude, que ce seraient des lieux de perdition. Je vais vite revenir à l'abdomen ou... Mais je crois qu'il est tout d'abord important de se rendre compte que je suis perdu dans ceci. Je suis perdu dans la rêverie, et que je pourrais aussi être présent dans la rêverie. Je suis perdu dans l'anticipation du futur qui m'inquiète. C'est là que je me trouve à cet instant-là. Comme il se peut que ceci change assez rapidement, ou c'est des zones plus difficiles de présence, à ce moment-là, je choisis le point d'ancrage, l'abdomen ou la poitrine. Mais ne pas considérer le moment où je réalise que je suis distrait comme un lieu qui doit être un lieu de perdition ou un lieu où je ne peux pas être présent. Parce qu'autrement, on va faire cette scission entre... Il y a des expériences qui sont des expériences de présence, qu'on peut être pleinement conscient, et d'autres non. On est toujours là, on n'a pas disparu. On abordera évidemment pendant cette semaine tous ces divers aspects pour qu'on comprenne un petit peu plus précisément ce dont il s'agit. Mais ici, pour évoquer un peu la pratique. Donc lorsque vous vous surprenez à être dissipé, prenez d'abord conscience où vous vous trouvez dans cette dissipation. Il y a un moment dans la pratique où on peut trouver sa présence dans toute expérience, dans la somnolence, dans la fatigue, dans l'inquiétude, où chaque expérience devient le lieu de la pleine conscience. C'est pour ceci que dès le début, c'est important de le mentionner. pas faire cette sorte de hiérarchie, parce qu'en général, on a beaucoup de peine à se libérer de cette hiérarchie. Quelquefois, après des années de pratique, certaines personnes voient encore ces autres expériences comme des obstacles, ce qui serait un empêchement à la méditation. Ce qui voudrait dire un empêchement à la vie, dans le fond. Et si la somnolence, l'inquiétude sont des empêchements à la vie, on ne sait plus ce qui va rester pour la vie. Il va rester très peu de choses. Donc, tout ceci font évidemment partie de tout ce qui nous traverse, qui nous habite, qui sont notre richesse. Mais certaines expériences sont plus simples pour nous, plus claires, d'autres un peu plus difficiles, mais on va apprendre par la pratique à trouver cette présence dans toute expérience. Manière de danser avec les différentes expériences de la vie, sans tomber dans la confusion. On va passer quelques instants de pratique, je vais donner quelques indications, et puis je parlerai ensuite un peu de la structure de notre stage. Donc, prenez la position la plus confortable possible. Là, donc, vous avez vu qu'il y a assez de chaises si jamais vous voulez alterner ou prendre des chaises. Ce n'est pas la position qui fait. On prend la position qui semble la plus adéquate pour la pratique. Il n'y a pas de modèle particulier. Et aussi, c'est important d'explorer la pratique. J'en reparlerai demain, l'assise, la manière dont vous êtes assis, parce que quelquefois un peu de différence dans la hauteur du coussin. J'ai un coussin très haut. Si j'ai un coussin qui fait la moitié de hauteur, j'ai mal au bout de 5 minutes. Donc ça fait une grande différence. Il se peut quelquefois qu'on puisse rester toute une assise, 30 minutes, 45 minutes, sans trop de douleur, parce qu'on a trouvé ce qui nous correspond et qu'il y a d'autres choses qui ne correspondent pas. C'est pour ça en général que je prends mon coussin, parce que même des coussins en coton comme ça, assez hauts, sont trop bas et j'ai tout de suite mal au dos. Donc, explorer aussi pour les personnes qui n'ont pas de pratique aussi longue, ça vaut la peine de dire, tiens, voilà, finalement, j'ai trouvé ce qui me convient. Vraiment explorer ceci pour que vous trouviez la position la plus confortable. Pas de position parfaite, mais il y en a qui sont certainement très imparfaites. Donc, essayez d'éviter celle-ci, en tout cas, des positions trop douloureuses. Voilà, donc en général, on laisse les yeux fermés pour ne pas être trop attiré par tout ce monde coloré assez intense. Sans imposer des tensions dans le corps pour prendre une position trop rigide. Laissez le corps détendu, mais néanmoins dans une position quand même droite. Prenez simplement conscience de ce qui se passe quand, dans ce premier instant, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous découvrez en vous-même? Qu'est-ce qui se passe en vous-même à cet instant-là? Non pas pour l'analyser ou en écrire un roman, mais simplement, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? On pourrait dire tout d'abord, est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien? De manière évidemment très générale. Prendre conscience si l'esprit est calme ou agité ou inquiet. Avec des pensées, des doutes. Pour les personnes qui sont nouvelles à un stage aussi long, peut-être, tiens, il y a des doutes, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que l'esprit est calme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est frais? Ou est-ce qu'il y a un peu de torpeur, de fatigue, de somnolence? Prenez conscience aussi de la dimension corporelle, le fait d'exister de manière concrète, tangible, sans trop attacher d'importance à l'image du corps, mais plutôt à son poids, pour dire à sa température, à sa densité, sans rien vouloir développer, accomplir, mais découvrir qu'est-ce qui est là, en cet instant. Comment est-ce que le corps se manifeste en cet instant, par ses sensations corporelles? Pour dire, qu'est-ce qu'il présente en cet instant? Donc découvrir à chaque instant ce qui est déjà là, ce que j'éprouve, ce que je ressens.